Le podcast À cœur d'elle est l'initiative de la table de concertation de Laval en conditions féminines et est diffusée dans le cadre du mois d'activité féministe de l'automne 2021. On milite pour une ville de Laval féministe et inclusive, une discussion à la fois. Bonjour, ici Justine, présentement au studio pour enregistrer un nouvel épisode du podcast À cœur d'elle. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par quelqu'un de bien spécial. Hello Kim!
Bonjour Justine!
Comment ça va?
Ça va bien, merci. Et toi?
Bien merci, je suis contente d'être avec toi ce matin. Veux-tu commencer par te présenter?
Oui, écoute, moi je suis directrice générale du ROPPHL. Donc, le ROPPHL, c'est le regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval. Et puis, si ça ne te dérange pas pour le reste du podcast, je te propose de nous désigner comme le ROP, étant donné que notre acronyme est dur à se mettre en bouche.
C'est vraiment très long. On va dire le ROP. C'est parfait.
Donc, je travaille au ROP depuis 2019. J'ai commencé comme agente de développement et communication, puis depuis janvier dernier, là, je suis à la direction générale.
Bien, super, excellent. Puis en fait, sommairement, vous faites quoi au ROP?
Le ROP, c'est un organisme communautaire de défense collective des droits et de promotion des intérêts des personnes handicapées et de leurs familles. Donc, on est un regroupement. Là, on regroupe une trentaine d'associations qui représente près de 10 000 personnes lavallois, lavalloises en situation de handicap. Donc, c'est vraiment pour tout type de déficience. Donc, déficience sensorielle, motrice, intellectuelle, un trouble langagier, un trouble du spectre de l'autisme. Et puis, on a aussi des organismes là, qui représentent les proches de ces personnes-là. Donc, nous, on agit comme porte-parole de nos organismes membres sur différents grand thème, disons, de différents axes d'intervention, la santé, les services sociaux, vie sociale et professionnelle, l'habitation, accessibilité universelle. Donc, on doit avoir quand même là, des connaissances assez pointues et diversifiées sur tous ces sujets-là. On offre des services de représentation, concertation, défense de droits, accompagnement. Puis aussi, on veille à diffuser l'information pertinente, là, à la population générale là, sur les enjeux qui touchent les personnes handicapées.
Puis, en fait, aujourd'hui, on souhaite discuter d'accessibilité universelle.
Oui, exact.
Oui, exact. Peux-tu m'en dire plus, en fait, sur l'accessibilité universelle, puis comment ça s'inscrit dans votre travail, dans vos réflexions?
Bien, certainement. Peut-être je peux commencer par la définition plus officielle, disons, de l'accessibilité universelle. C'est l'accessibilité universelle, là, c'est le caractère d'un produit, procédé, service, information ou environnement qui, dans un but d'équité et d'approche inclusive, permet à toute personne de réaliser des activités de façon autonome et d'obtenir des résultats équivalents, peu importe les capacités de la personne. Donc, vous l'aurez compris, là, j'ai lu ma feuille pour le dire, c'est assez compliqué comme,
un peu théorique.
Comme définition. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'accessibilité universelle, bien, ça touche à plusieurs axes. Hein. On ne parle pas juste d'architecture. Elle sous-tend des valeurs fortes d'inclusion, de participation, de justice sociale. Et puis, elle vise l'autonomie des personnes. Donc, je te propose, là, pour mieux illustrer un peu ce qu'est l'accessibilité universelle, de faire un petit détour par comment a évolué notre conception du handicap au travers des années.
Mm-hmm. Très intéressant parce qu'en fait, je parle pour moi-même. Là, je n'avais pas nécessairement réfléchi avant qu'on discute ensemble que cette conception-là avait évolué. Donc, je suis vraiment intéressée à en apprendre un petit peu plus.
Bon, ben ça va me faire plaisir de t'éclairer.
Merci.
En fait, avant, on avait une vision très, très médicale, disons, du handicap. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a un trouble ou une déficience, qui rend plus difficile l'accomplissement de certaines tâches là, dans sa vie quotidienne. Puis le handicap serait une conséquence directe de ses incapacités. Donc c'est très, disons, fataliste comme vision. Hein? On ne peut pas se sortir du handicap. Puis dans ce modèle, une personne handicapée, elle peut seulement espérer avoir des mesures pour pallier à son handicap. Ce modèle-là, il ne vise pas la transformation sociale. On va vraiment y aller avec des adaptations au cas par cas, selon les personnes.
Mm-hmm. Donc, à quelque part, c'est un peu comme si c'était la faute de l'individu, entre guillemets, d'avoir un handicap, mais c'est pas à la société de s'adapter.
Oui, c'est ça. Le handicap, dans ce modèle-là, il appartient à la personne.
OK. Puis aujourd'hui, ça l'a évolué, donc?
Oui, en fait, on a développé, dans les dernières années, au Québec, une autre approche conceptuelle du handicap, qu'on a appelé, là, ben, quand je dis « on », c'est pas moi, là, que des chercheurs ont appelé le modèle de développement humain de processus de production du handicap. Donc, pour faire court, on va l'appeler le PPH, processus de production du handicap. Donc, ce modèle-là, il propose une vision sociale du handicap. Donc, on va plutôt parler de situation de handicap que de handicap en tant que tel. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, une personne, elle peut avoir un trouble ou une déficience qui entraîne des incapacités. Donc, ça peut être une incapacité à marcher, à comprendre, à voir. Donc, on est encore, on reprend un peu le modèle précédent, mais la différence, c'est que c'est pas à ce niveau-là que se situe le handicap. Le handicap, il découle de l'interaction entre la personne et son environnement, surtout quand l'environnement a été conçu en fonction de personnes qui n'ont aucune incapacité. Donc, s'il y a des obstacles dans l'environnement de la personne, elle va être empêchée de participer pleinement à la vie sociale, par exemple, en n'ayant pas accès au bâtiment, aux différents services, à l'information, etc. Donc, si on résume, l'incapacité, ça appartient à la personne, mais le handicap, ça vient de l'environnement qui crée un obstacle. C'est l'interaction entre la personne et son environnement qui produit le handicap, bref.
OK. Puis c'est dans cette vision-là, en fait, que vous travaillez au RAP puis que vous faites de la défense de droit en essayant d'être, en fait, de mener ça comme une lutte puis de collective puis de voir comment la société peut s'adapter à ben, faire les services.
Oui, exactement. Parce qu'avec l'accessibilité universelle, ben, plutôt que d'offrir des adaptations à la personne, on va agir sur son environnement. On va viser à éliminer toutes les barrières qui l'empêchent de participer pleinement à la vie sociale. Puis on va viser à offrir un modèle qui convient au plus grand nombre. Donc c'est sûr que ça reste un idéal à atteindre. Là, c'est une vision idéaliste. Puis,
mais en même temps, d'embarquer dans une idée où la société doit s'adapter, ça sert à tout le monde.
Exactement. Donc, même si l'accessibilité universelle, elle répond aux besoins spécifiques de personnes en particulier, ben elle va être utile pour toute la population, là, quand les besoins des personnes qui ont des limitations fonctionnelles, elles vont être révélatrices d'autres difficultés vécues par l'ensemble des citoyens, même si c'est peut-être à un degré moindre ou de manière temporaire. Donc, on veut lever les obstacles pour favoriser la participation de tout le monde, tout en gardant en tête aussi là, qu'il y a quand même certaines adaptations qui vont rester nécessaires. Par exemple, le sous-titrage des vidéos, l'interprétation en langue des signes québécoise. Donc, il faut être à l'écoute des personnes, puis leur proposer de nous faire part de leurs besoins d'accessibilité.
Puis, quels sont les défis auxquels les organismes qui œuvrent pour les personnes vivant avec un handicap font face? Dans le fond, c'est quoi les défis que vous observez au RAP?
Ben, c'est sûr que tu l'as vu tantôt, là, nous, nos organismes qu'on représente, ils ont des membres très différents. Là.
Mm-hmm, ben oui.
Donc, ils vivent des défis différents aussi, mais il y a certains enjeux qui sont communs, puis ça, ben, c'est les enjeux qui sont communs à tous les organismes communautaires. Donc, évidemment, un manque de ressources humaines qui est directement lié à un manque de financement. Donc, c'est difficile de recruter quand nos conditions de travail ne sont pas très attractives. Mais bon, ça touche tous les organismes.
Ben, quand même. Je crois que ça vaut la peine de le mentionner. T'sais, si c'est une difficulté qui est vécue puis qui est reconnue, on veut du financement.
Oui. Puis, ben, tu sais, je voudrais quand même peut-être spécifier, là, avec la COVID, ça l'a affecté différemment, là, les organismes en fonction du profil, si je peux me permettre, de leurs membres. Mm-hmm. Donc, il y en a certains qui ont dû, tu sais, par exemple, je pense aux organismes qui desservent des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, ben pour eux, les services à distance, ça ne fonctionnait pas. Donc, depuis le tout début de la COVID, il y en a qui ont maintenu leur service en présence. Fait que pour eux, la difficulté, ben, ça a été d'appliquer les mesures sanitaires, mm-hmm. D'avoir à gérer les contaminations, d'être obligé d'offrir des services à moins de personnes, en fait, pour pouvoir respecter la distanciation sociale. Donc, leurs listes d'attente ont nécessairement augmenté. Alors que pour les organismes qui offraient pouvaient offrir des services à distance, là, je pense par exemple aux organismes qui desservent des personnes qui ont une déficience motrice, ben, le problème il a plus été au niveau de la mobilisation de leurs membres, donc pas tant au niveau des listes d'attente, mais surtout d'avoir accès à leurs membres pour diverses raisons. Là, on s'entend qu'un service à distance, c'est pas la même chose qu'un service en présence. Là, il y a peut-être des personnes que ça l'interpelle moins, mais il y a aussi la question de l'accès à Internet puis aux outils technologiques là, qui peut nuire.
Pour rester en contact avec les membres, en fait, puis rester proche d'eux, pas les perdre.
Exactement.
Oui, donc je comprends. Puis en fait, c'est donc un problème vécu par les organismes, c'est un manque de personnel, puis une difficulté à rejoindre les membres, mais ça fait aussi en sorte que les listes d'attente s'allongent toujours, ce qui était un problème, dans le fond, préexistant à la COVID.
Oui, c'est ça.
Donc, ça m'amène, en fait, à poser ma prochaine question. C'est quoi les problématiques puis les ressources manquantes que tu dirais qui sont principalement vécues par les personnes en situation de handicap, mais spécifiquement les femmes qui vivent avec un handicap?
Oui, bien, en fait, nous, Europe, à l'automne 2020, on a fait un processus de planification stratégique avec nos membres. Puis, pendant ce processus-là, on a identifié les enjeux prioritaires qui affectent la vie des personnes handicapées de Laval.
Mm-hmm.
Donc, c'est sûr que je ne vais pas tous les nommer aujourd'hui, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On s'entend que quand on parle de personnes handicapées, c'est beaucoup de personnes là, qui ont des profils très différents aussi les uns des autres. Mais on peut peut-être là, regarder ceux qui sont revenus le plus souvent.
Ben oui, certainement.
Puis je te propose aussi peut-être de mentionner ceux qui affectent le plus les femmes en situation de handicap.
Exact.
Puis, je pourrais te parler aussi, là, je pourrais croiser ça un peu aussi avec des statistiques qui sont issues d'un portrait qui a été réalisé par l'OPHQ. Donc, l'OPHQ, c'est l'Office des personnes handicapées du Québec. Donc, en 2021, ils ont sorti un portrait sur les femmes avec incapacité au Québec qui est basé là, sur le dernier recensement canadien. Donc, on parle d'incapacité, en fait, c'est le terme qui est utilisé par Statistique Canada. Donc, c'est vraiment des difficultés à réaliser des tâches dans la vie quotidienne. Donc, ça peut être une incapacité liée à l'ouïe, liée au déplacement, à la mobilité. Bref, c'est quand c'est même multiple, assez large. Ouais. Exactement.
Donc, vous les avez divisés en 4 axes?
Oui, bien, en fait, avant de rentrer dans nos 4 axes, je te donnerai peut-être une petite statistique générale. Ben, tous les chiffres, en fait, là, que j'ai, ils datent de 2017. Donc, au Québec, les femmes de 15 ans et plus, elles présentent un taux d'incapacité qui est supérieur à celui des hommes. Et puis, c'est quand même là, statistiquement significatif. Là. Donc, on parle de 17,8% pour les femmes contre 14,4% pour les hommes qui auraient des incapacités. Et puis, à Laval, plus spécifiquement, il y a quand même aussi une très grande différence. Donc, c'est 16,9% pour les femmes et puis 12,8% pour les hommes. Donc, il y a quand même un 4 points de pourcentage de différence entre les deux.
Là. Oui, ce qui représente donc beaucoup de femmes.
Oui, exactement. J'ai pas fait la règle de 3 pour calculer combien de personnes ça représente, mais effectivement, c'est beaucoup de gens.
Exact. Donc, encore une fois, ça nous revient à... Ça bénéficie à tout le monde et à peut-être à plus de gens qu'on croit.
Exactement. Ben, en fait, pour présenter peut-être là, les ressources manquantes, je te propose de reprendre nos 4 axes d'intervention dont je te parlais tout à l'heure. Là. Donc, il y avait, juste pour faire une petite récapitulation, l'habitation, santé, services sociaux, l'accessibilité universelle et puis la vie sociale et professionnelle. Donc, d'abord, l'habitation, ben nous, c'est sûr que nos interventions sont surtout concentrées dans le domaine du logement social et abordable.
Mm-hmm.
Les enjeux qu'on a identifiés avec nos membres, Bien, c'est sûr, il faut développer plus de logements sociaux à Laval. On sait que c'est un très grand manque dans notre ville. Ça a été pas assez développé pendant plusieurs années. Il y a aussi le besoin de sensibiliser, d'accompagner les groupes les groupes porteurs là, qui développent les projets de logement social pour les aider à inclure l'accessibilité universelle dans leurs projets. Donc, qu'il y ait plus de logements sociaux qui soient adaptés et qui soient accessibles aux personnes handicapées. Puis, un autre peut-être enjeu qui a été identifié par les membres, bien, on le sait, là, d'avoir accès à un logement social, c'est une démarche qui est extrêmement longue, extrêmement fastidieuse. Il y a des démarches administratives qui sont très complexes. Donc, souvent, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'accompagnement pour passer au travers de toutes ces démarches-là. Et puis, c'est dur de trouver là, l'accompagnement nécessaire.
Donc, un certain accompagnement pour avoir accès à un logement adapté et abordable.
Oui, ou des fois, il n'y a pas nécessairement besoin d'être adapté, le logement, mais il faut qu'il soit quand même accessible. Mm-hmm. Ou ça peut être tout simplement, ça peut être tout simplement qu'il soit abordable.
Oui, c'est plus difficile qu'on croit. Hein?
Oui, c'est ça. Mais il y a quand même 14 % des personnes avec incapacité qui vivent dans un logement subventionné.
Puis, ensuite, au niveau de l'accessibilité universelle, les transports?
Oui, ben en fait, l'accessibilité universelle, nous, on le divise en deux grandes sous-catégories. Là. Donc, il y a, comme tu mentionnais, le transport régulier. Donc, il ne faut pas le confondre avec le transport adapté. Nous, on parle vraiment de transport en commun régulier. Puis, la deuxième sous-catégorie, c'est l'architecture et les communications. Donc, pour le transport régulier, ce qui a été identifié comme enjeu avec nos membres, ben, c'est le manque d'accessibilité du réseau de transport en commun. Donc, soit au niveau des équipements, par exemple, des autobus non accessibles, ou au niveau des infrastructures. Donc, ça peut être les arrêts d'autobus, par exemple, qui ne seraient pas inaccessibles. Donc, ce manque d'accessibilité-là, ben, il mène à une faible utilisation du transport en commun régulier de la part des personnes handicapées. Mais pour les femmes, plus particulièrement, ben, en fait, les femmes avec incapacité, elles ont souvent moins accès à des véhicules que les hommes. Et puis, elles vont être plus nombreuses à utiliser régulièrement les transports en commun ou le service de transport adapté. Donc, le manque d'accessibilité du réseau, c'est sûr que ça les affecte davantage, là, proportionnellement.
Donc, ça affecte certainement leur accès aux services puis juste à leur participation à la vie quotidienne.
Oui, c'est ça, exactement. Les déplacements, c'est prioritaire pour pouvoir accéder à toutes les autres sphères de notre vie, disons, là. Concernant l'accessibilité de l'architecture des communications, au niveau de l'architecture, là, c'est sûr qu'il y a un manque d'accessibilité des infrastructures. À Laval, on le sait, là, il y a des bâtiments publics qui sont vieillissants, qui ont été construits
dans quelques décennies déjà.
C'est ça, dans une époque où ce n'étaient pas les mêmes normes d'accessibilité que maintenant. L'accès au bâtiment peut être difficile. Puis, c'est difficile aussi de se déplacer d'une façon qui serait sécuritaire. Donc, si on pense plutôt à la mobilité active, disons. Là. Alors, si je te donne juste l'exemple des intersections, elles peuvent être très dangereuses, les intersections à Laval. Là. Déjà, il y en a sur plusieurs intersections, il y a une absence de feux sonores. Les rues sont très larges, l'auto a une place prédominante, les traverses sont dangereuses, il y a peu d'espace pour se reposer aussi, là, pour les personnes qui se fatiguent plus rapidement. C'est sûr que nous, nos interlocuteurs, ils sont surtout dans le secteur public, mais il y a aussi plein de commerces là, qui sont pas accessibles.
Donc, il faut penser un peu plus large, simplement, que d'avoir une place de stationnement réservée en avant, puis une rampe d'accès, bien que ce soit important pour qu'une ville soit entièrement accessible, c'est un peu plus complexe, disons.
Ben oui, puis tu sais, c'est pour ça aussi que nous, dans ce point-là, on met aussi l'accessibilité des communications. On n'y pense pas toujours, mais quand on n'a pas accès à l'information, ben ça nuit à l'accès aux services, ça crée de l'isolement chez les personnes. Donc, c'est quoi l'accessibilité des communications? Mais on parle, par exemple, d'utiliser un langage simplifié que tout le monde peut comprendre, d'avoir des communications visuelles qui soient accessibles, d'avoir des sites Internet qui soient accessibles pour les personnes, par exemple, qui ont des limitations visuelles puis qui utilisent des lecteurs d'écran. Donc, c'est un aspect de l'accessibilité universelle auquel on ne pense pas d'emblée, mais qui est aussi important que l'accessibilité de l'infrastructure.
Exactement, parce que c'est quand même toute une limitation en 2021, disons, de ne pas pouvoir accéder à l'Internet quand on sait que la plupart des gens passent l'ensemble de leur journée sur Internet. C'est toute l'information qui est là, c'est important que absolument tout le monde y ait accès.
Oui, c'est ça, exact. Puis l'information, on dit souvent, l'information, c'est le pouvoir. Donc, il ne faut pas que certaines personnes en soient privées. Peut-être sur une bonne nouvelle, en fait, je pourrais, tu sais, il y a la politique en accessibilité universelle de Laval qui devrait être adoptée sous peu. En fait, peut-être même qu'elle va déjà avoir été adoptée là, au moment où le balado va être rendu public. Au moment public. Où on se parle. Voilà, donc ça, on espère que ça va apporter quand même... des changements positifs là, pour les prochaines années.
Bon, bien, on garde espoir dans ce cas-ci.
Oui, exact. En fait, ensuite, pour notre troisième axe, si tu te souviens bien, qui était santé et services sociaux, bien, c'est sûr que cette catégorie-là, elle affecte vraiment beaucoup les personnes. Là, elles vont les affecter dans leur vie de tous les jours. Puis les enjeux, ils sont multiples. Donc, je ne pourrais pas tous les nommer, mais peut-être dire... Avant de nommer les enjeux, ben, au sein de la population avec incapacité, les femmes, elles ont plus souvent que les hommes une incapacité grave. Puis elles vont cumuler plus souvent plus d'un type d'incapacité. Donc, en conséquence, elles vont avoir une plus grande consommation de médicaments, elles vont avoir plus de problèmes de santé chronique ou des problèmes de santé multiples. Elles vont avoir des plus grands besoins dans le secteur de la santé et des services sociaux, là. Mm-hmm. Fait que les enjeux qui ont été identifiés avec nos membres, ben, évidemment, les longues listes d'attente, l'accès inégal aux services de réadaptation ou aux aides techniques, là. Par exemple, il y a environ une femme avec incapacité sur quatre qui a des besoins non comblés en aide technique. Donc, c'est quand même beaucoup. Un autre enjeu aussi qui affecte beaucoup les femmes, c'est un manque de services de soutien à domicile. Donc, il y a peu de personnes qui ont accès à toutes les heures dont elles auraient besoin. Et puis, au Québec, là, en 2017, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à recevoir des services de soutien à domicile. Donc, on parle de 59 % contre 44 % des hommes. Puis si je parle des femmes avec incapacité, donc 59 % des femmes avec incapacité recevaient des services de soutien à domicile en 2017. Mais elles vont être souvent plus nombreuses aussi à avoir des besoins d'aide qui ne sont pas comblés entièrement là, par ces services de soutien-là. Donc, c'est quand même 58 % des femmes.
Bien, ce qui est un nombre assez impressionnant. Puis en fait, j'ose à peine le demander, mais qui prend soin donc des hommes lorsqu'ils vivent avec des incapacités?
Ben c'est ça, en fait. Souvent, les femmes vont être davantage proches aidantes. Mm-hmm. Elles sont proches aidantes, par exemple, d'un conjoint, si cette personne-là, le conjoint en question, ne reçoit pas tout le soutien à domicile dont il aurait besoin, ben souvent, c'est la femme qui va prendre sur elle là, de réaliser ces tâches-là. Là. Donc, ça l'ajoute un poids supplémentaire sur les femmes.
Donc, ça, c'est quand même intéressant. Là. C'est là qu'on voit que tout est dans tout, là, si on peut dire ça comme ça. Ça se croise, puis ça fait en fait que le manque de services a des impacts multiples. Là.
Voilà, exactement. Quand on parle de personnes handicapées, bien, ou de services aux personnes handicapées, il faut voir aussi tout l'écosystème autour, toutes les autres personnes que ça peut affecter, positivement ou négativement. Puis finalement, pour notre dernier axe d'intervention, qui est la vie sociale et professionnelle, Nous, on l'a divisé en deux grandes sous-catégories, donc l'éducation et le travail. Avec nos membres, là, on avait identifié comme enjeu pour l'éducation, une augmentation du temps d'attente pour accéder aux ressources spécialisées dans le milieu scolaire. Là. Donc, on sait qu'il y a quand même une pénurie de professionnels dans le milieu scolaire aussi qui nuit à l'accès aux services. Il y a aussi des ruptures dans le continuum de services. Donc, quand les personnes arrivent à 21 ans, en fait, quand elles quittent le milieu scolaire, elles ont droit à des services pour les aider à intégrer la vie active. Mais souvent, il y en a qui vont être... qui n'auront pas accès aux services auxquels ils ont droit, on va perdre certaines personnes là, dans ce processus de transition-là. Puis, c'est sûr que les enjeux qu'on a identifiés avec nos membres, ils concernent surtout le primaire, le secondaire, puis cette période de transition-là après le secondaire. Puis, à ce niveau-là, dans le milieu scolaire, il y a moins de femmes ou de filles qui ont, on appelle ça une cote de difficulté là, dans le milieu scolaire que de garçons ou d'hommes. Mais globalement, on peut dire que les femmes avec incapacité sont moins scolarisées que les personnes sans incapacité. Mais c'est la même chose aussi pour les hommes. Là. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas tant de différences statistiques, disons.
Non, tous les groupes, en fait, là, avec incapacité, donc souffrent d'un manque de services adaptés là, à l'école, ce qui forcément, après ça, nuit pour rentrer sur le marché du travail puis avoir accès à un emploi intéressant, bien rémunéré.
Oui, mais en fait, dans le milieu post-secondaire, ils ont quand même, scolaire et primaire aussi, primaire et secondaire aussi, là, les services adaptés sont quand même là. Les équipes écoles sont très mobilisées aussi pour offrir ces services-là. Mais bon, il y a aussi des ressources financières qui sont déficientes. La même chose que pour les organismes communautaires. Donc, les listes d'attente sont
longues. Sont longues, exact. D'accord.
Sinon, pour le travail, on sait que le taux d'emploi des personnes avec incapacité, il est plus faible que le reste de la population. Puis, il y a plein de raisons qui expliquent ça. Mais avec nos membres, on avait quand même identifié là, qu'il y avait un manque de sensibilisation des milieux de travail envers les besoins des personnes handicapées ou envers les compétences aussi des personnes handicapées. Il y a quand même certains préjugés là, qui persistent quant aux compétences. Puis aussi, un certain manque de connaissances envers les services disponibles qui peuvent aider là, à l'intégration des personnes handicapées dans un milieu de travail. Donc, ça a comme conséquence que les femmes avec incapacité, elles ont un revenu moins élevé que toutes les autres catégories de personnes confondues. Donc, il y a quand même 34 % des femmes qui ont un revenu personnel inférieur à 15 000 $
Ce qui est très, très peu.
Oui, c'est ça. On parle de situation de pauvreté, là. Puis, 68 % qui ont un revenu inférieur à 30 000 $ par année, alors que c'est 45 % là, pour l'ensemble de la population. Donc, il y a quand même une très grande différence. Et puis, les femmes avec incapacité, elles ont plus souvent un emploi qui n'est pas de qualité. Donc, elles vont se retrouver souvent dans des emplois à temps partiel, qui sont moins bien rémunérés, voire précaires, ou dans des secteurs d'activité qui ne leur offrent pas nécessairement là, des conditions de travail ou des mesures de protection adéquates.
Donc, encore une fois, un problème qui est complexe puis qui a plusieurs facettes. Puis, en fait, ça m'amène à vouloir te demander, penses-tu qu'il y a un mythe ou des préjugés qui seraient pertinents de défaire au sujet du handicap?
Oui, bien souvent dans la société, on va avoir le réflexe de surprotéger les personnes handicapées, de les infantiliser un petit peu. Mais en fait, les personnes handicapées, ou de les prendre en pitié même carrément, là, mais souvent les personnes handicapées, elles ne veulent pas qu'on les prenne en pitié. Là, elles trouvent
ça ne donne rien à quelque part de la pitié. On veut des services, on veut un emploi, on veut un logement.
Ben c'est ça, exactement. Elles veulent avoir accès aux services, elles veulent pouvoir exercer leurs droits, mais de la même façon que toute autre personne voudrait avoir accès à ces mêmes droits-là. Là. Donc, il faut vraiment éviter de surprotéger ou d'infantiliser les personnes.
Alors, bien, c'est un excellent point. Puis en fait, je me demande également, est-ce qu'il y a comme un projet spécifique donc, que vous souhaitez faire connaître au ROP puis qui travaille un peu dans le sens de tout ce dont on discute?
Oui, bien certainement. En fait, depuis 2021, on a débuté un grand projet qui vise à essaimer, si tu veux, la notion d'accessibilité universelle parmi toute la communauté lavalloise. Donc, ça s'appelle Accessible. Donc, c'est un petit jeu de mots. Là. C'est A-X-E-C-I-B-L-E. Donc, vous aurez compris que c'est en référence à l'accessibilité. Ce projet-là, en fait, ça fait longtemps qu'on le souhaite au ROP. À l'origine, ça vient, en fait, là, d'un objectif qu'on s'était donné dans notre précédente planification stratégique, donc en 2017. Où on souhaitait créer une cellule composée de citoyens et citoyennes de Laval pour outiller, accompagner nos partenaires à mieux appliquer l'accessibilité universelle au niveau de l'architecture puis des communications. Donc, pour diverses raisons, cette cellule-là, elle n'a jamais vu le jour, mais le besoin est quand même toujours resté. Puis, en 2019, on a tenu une assemblée de membres, donc on a réuni nos membres, où on a fait des ateliers d'incubation de projets qui viseraient à promouvoir, dans le fond, la notion d'accessibilité universelle. Donc, on a tenu deux ateliers avec nos membres, un sur la politique d'accès à l'information et aux documents, et puis un autre sur l'accessibilité universelle pris plus largement. Et puis, les résultats de ces deux ateliers-là, ils ont été retravaillés par la suite en petit comité là, avec nos membres intéressés. Donc, bref, on a pu soumettre notre projet qui a été accepté, puis depuis 2021, on l'a mis en branle.
Fait qu'il y a un très long travail pour en arriver finalement là, aujourd'hui à un projet qui est mis sur pied. C'est là qu'on voit que c'est pas si simple de changer les choses, mais avec de la dédication, ça arrive. Donc,
oui, puis surtout que notre projet, on avait quand même beaucoup d'ambition. On l'a développé en trois axes. Fait que d'abord, le premier axe, c'est un répertoire de ressources. Fait que c'est un répertoire qui est maintenant disponible en ligne. Là. Il a été lancé au mois de juin 2021. Donc, il vise à faciliter la recherche aux organismes qui veulent améliorer leurs pratiques en accessibilité universelle. Donc, on y a mis plus de 300 ressources. Ça peut être des guides, des outils, des fiches pratiques qui ont été regroupées en 6 catégories. Donc, l'attitude, la communication, la réglementation, le site, le soutien et les déficiences. Donc, on a voulu quand même centraliser toutes les informations qui existent sur l'accessibilité universelle en un même endroit. Puis, vraiment, c'est le premier répertoire du genre là, à voir le jour.
Donc, si, disons, je suis à la tête d'un organisme puis je souhaite améliorer mes pratiques en accessibilité universelle, je fonce tout droit sur le site d'Europe.
Oui, puis je t'incite aussi à aller consulter nos fiches accessibles. Donc, c'est des fiches qu'on a faites avec nos membres qui sont vraiment claires, simples, qui vont droit au but. Donc, tu sais, des fois, on tombe sur des guides qui peuvent faire une centaine de pages, puis ça peut quand même décourager les gens d'aller s'outiller pour appliquer l'accessibilité universelle. Fait que nous, on a vraiment essayé d'offrir aux gens des outils concrets puis rapides à utiliser.
Fait que des choses, c'est ça, pratico-pratique, on va droit au but, puis qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que, franchement, je pense qu'il reste pas tellement d'endroits au Québec, sur Terre, là, qui mériteraient pas d'être en fait améliorés là, au niveau de l'accessibilité.
Oui, puis surtout, en plus, que ça profite à tout le monde. Hein, donc, pourquoi s'en priver?
C'est notre message aujourd'hui. Ça profite à tout le monde.
Oui. Ensuite, le deuxième volet, là, si tu veux, de notre grand projet accessible, c'est notre brigade. Donc, on va former des brigadiers qui ont diverses limitations là, pour aller évaluer l'accessibilité des lieux publics lavallois. Donc, on parle vraiment de personnes qui vont témoigner de leur expérience client. Donc, ce n'est pas des ressources expertisés. Là. C'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui utilise un service public. Et puis, elles vont pouvoir évaluer l'accessibilité de ce lieu-là à partir d'une application qui a été développée par l'Europe, en fait. Suite à leur visite, là, il y a des rapports qui vont être transmis aux gestionnaires des lieux publics pour les outiller aussi à améliorer l'accessibilité de leurs services. Et puis, dernier volet, on a la formation accessible qu'on a appelée les trois dimensions de l'accueil universel. Donc, la formation, elle va aborder les attitudes. Donc, quelle attitude on doit préconiser quand on accueille une personne? Les communications accessibles ainsi que l'accessibilité du site. Donc, de l'environnement, de tout ce qui est bâti, là, dans le fond.
Puis ces formations-là vont être offertes à qui?
Oui, mais en fait, elles visent à outiller le personnel à l'accueil ou les professionnels des milieux institutionnels. Donc, déjà, on a approché là, le secteur de la santé, on a approché la ville de Laval pour offrir cette formation-là. Puis, on va aussi l'offrir à nos partenaires du milieu communautaire.
Très intéressant.
Oui, puis d'ailleurs, elle va être lancée prochainement, donc cet automne. Puis, on souhaite commencer à l'offrir là, dès le début de l'hiver 2022.
Bravo pour votre projet. Puis, en fait, ça m'amène en fait à avoir envie de te poser une question pour un peu ramener le sujet du féminisme, parce qu'évidemment, au ROP, vous ne travaillez pas uniquement avec les femmes en situation de handicap. Mais j'ai quand même envie de te demander, étant donné que la TCLCF fait partie du mouvement féministe, c'est quoi les bonnes pratiques qui sont à adopter si on veut être plus inclusive puis adopter un peu cette grille-là là, d'analyse que ça prend pour instaurer l'accessibilité universelle?
Bien, évidemment, il faut adopter une approche intersectionnelle. Là. Il ne faut pas percevoir les femmes simplement comme un bloc monolithique, mais plutôt regarder comment se croisent les différentes problématiques qui sont vécues par les personnes. Donc, parfois, pour les femmes qui ont des limitations, ben peut-être que c'est la situation de handicap qui va avoir un effet plus déterminant sur une situation donnée. D'autres fois, non, peut-être que ça va être davantage le fait d'être une femme. D'autres fois, peut-être que ça va être une combinaison des deux qui vont avoir une influence. T'sais, on l'a vu quand j'ai présenté quelques statistiques, là. Il y a des grandes inégalités entre les femmes en situation de handicap et les femmes et hommes et dans le fond et la population qui n'a pas d'incapacité, tout comme avec les hommes en situation de handicap sur certains enjeux.
Donc, c'est là d'où l'importance de voir en fait que les femmes qui vivent avec un handicap vivent de l'oppression de deux côtés. Donc, une bonne pratique à adopter, ce serait tout simplement de garder ça en tête. Mais encore une fois, j'ai le goût de dire, ça va bénéficier à tout le monde, puisque l'idée de derrière le féminisme intersectionnel, c'est un peu de remettre les marges au centre.
Là. Exactement. Puis, tu sais, c'est important de s'outiller aussi pour adopter des pratiques d'accessibilité universelle, parce que, bon, évidemment, ça va profiter à tout le monde, mais ça va aussi, tu sais, pour les personnes handicapées, bien, c'est une question de droits humains, là. Donc c'est essentiel pour l'exercice de leurs droits.
Excellent. Donc, merci honnêtement pour cette belle conversation-là. J'ai l'impression qu'on a comme... Et on a été un peu en surface parce qu'il y en aurait tellement à dire, mais en même temps, ça permet, je crois, une belle vue d'ensemble de c'est quoi les problématiques qui sont vécues actuellement à Laval. Donc, merci beaucoup d'être venu.
Oui, puis si les gens veulent en savoir plus, je les invite à nous suivre, à suivre nos activités, nos communications, voilà.
Exact. Vous êtes sur Internet, puis les réseaux sociaux, j'imagine.
Oui, tout ça.
Tout ça. Donc, un gros merci d'être venu, puis à la prochaine.
Bye-bye.
Vous venez d'écouter le podcast À cœur d'elle, à l'animation Justine Bouvier, à la composition musicale Marika Galea, au graphisme Véronique Lee, enregistré au studio Espace Numérique avec le soutien financier de la Ville de Laval et du secrétariat à la condition féminine dans le cadre de l'entente régionale en égalité.